au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Voici 19 degrés actuellement sous la pluie au cœur de Lanaudière. Je vous souhaite un bon lundi. Nous sommes le 22 septembre à l'émission aujourd'hui. Patrick Capoluco, le directeur général du Centre scolaire des affluents, va nous parler d'un nouveau centre de formation pour adultes du côté de Repentigny. Pierre Paquette, avec qui il sera question du Front commun contre le projet de loi sur le régime forestier. On va parler aussi avec Simon Deschênes, président du syndicat des travailleurs du 6 de Lanaudière. Il sera question de violence dans les établissements de santé. Dave Hervieux sera avec nous, président de Dévolution, une entreprise de la Valtrie qui exporte des logiciels vers les États-Unis. Également la docteure Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides Lanaudière. On aura l'occasion de parler du projet de loi 106 qui, lierait la rémunération à la performance des médecins omnipraticiens. Mais tout d'abord, les dirigeants du monde entier sont réunis aujourd'hui du côté de New York pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour notamment le discuter de la reconnaissance d'un État palestinien, comme ça a été le cas pour le Canada hier et la France aujourd'hui, là, qui ont reconnu l'État palestinien, un principe auquel adhèrent donc maintenant une bonne dizaine de pays. François Morin échange là-dessus avec notre analyste Mathieu Bélanger.
Rappelons qu'avant même cet automne ou cette année, il y avait déjà une majorité de pays de l'ONU qui reconnaissaient l'État de la Palestine. Ce qui est nouveau cette année et depuis quelques jours en particulier, c'est que des pays membres du G7 aussi donc adhèrent à ce mouvement-là de reconnaître l'État de la Palestine, dont le Canada. C'est ça la nouveauté. Et pourquoi, évidemment, dans tout le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas, certains diraient contre la Palestine. Donc, ça n'est pas toujours des points de vue là-dessus, comment nommer les choses. Donc, c'est pour ça que je nomme les deux façons de nommer. Et dans ce contexte-là, il y a une volonté d'un certain nombre de pays, donc Canada, de mettre de la pression sur Israël et de mettre de la pression sur les États-Unis pour que les États-Unis mettent de la pression sur Israël. Donc, en faisant cette reconnaissance-là, en disant, on considère qu'il y a un État de la Palestine et donc que ce que Israël fait présentement ressemble à bien des points de vue à ce que la Russie fait en Ukraine. Donc, c'est un peu comme ça qu'on veut justement nommer les choses. C'est une attaque d'un État contre un autre État indépendant. Cette reconnaissance-là implique ce discours-là. Et donc, si c'est cela, on met les États-Unis devant certaines contradictions en leur disant, vous pouvez pas juste défendre Israël et le droit d'Israël de se défendre par rapport justement à la prise, la capture des otages là en 2023. Le droit international est clair que lorsqu'un pays est attaqué, le droit de se défendre, mais aussi qu'il faut protéger dans toute guerre la vie des civils, ce que plusieurs observateurs dénoncent présentement en Israël. Certains allaient même jusqu'à dire qu'Israël commet un génocide par rapport au peuple palestinien. Et donc, avec cette reconnaissance-là, encore une fois, on peut mettre de la pression sur les États-Unis, sur Israël, pour dire qu'il faut maintenant que les choses changent.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à prétendre qu'on va tenter d'isoler Israël et les États-Unis dans leur position?
Dans leur position, oui, c'est exactement ce qu'on fait. Le but de ces déclarations-là, c'est qu'il reste à peu près que ces pays-là qui ne reconnaissent pas et des pays qui sont très proches, disons, des États-Unis, donc certains pays qui ne reconnaissent pas l'État de la Palestine. Et ici, avec une nuance importante, il y a plusieurs pays qui ne reconnaissent pas l'État de la Palestine, et prenons les États-Unis même là-dessus, et même le Canada jusqu'à récemment, en disant, on croit qu'éventuellement, il doit y avoir deux États, un État, donc Israël et un État de la Palestine, mais qu'on n'est pas encore rendu là et que le meilleur moyen d'arriver à cette réalité concrète-là est de ne pas faire cette reconnaissance présentement de cet État palestinien, notamment à cause que le Hamas a le contrôle là sur la bande de Gaza et que le Hamas ne reconnaît pas l'État d'Israël et souhaite toujours donc la destruction de l'État d'Israël. Il y a peu d'États qui vont jusque Israël va jusque Benjamin Netanyahu va dans les derniers jours en disant qu'on veut qu'il n'y ait jamais d'État de la Palestine et voir annexer une partie encore de ce qui reste du territoire palestinien. La plupart des autres pays veulent une solution à deux États, incluant les États-Unis. Et donc, on est dans la stratégie, quelle est la meilleure stratégie pour ça, dans laquelle il y a des désaccords. Le Canada et les autres pays qui, ces temps-ci, reconnaissent l'État de la Palestine disent, ben, la stratégie qu'on avait jusqu'à présent de dire, on va souhaiter une solution à deux États, mais pas faire cette reconnaissance-là immédiatement, ben, cette stratégie-là semble ne pas fonctionner, voire on va dans le sens inverse. Bon, ben, essayons maintenant autre chose. Les États-Unis ne sont pas rendus là, et pour eux, ben, la décision de ces différents pays-là de faire cette reconnaissance-là de la Palestine nuit à leur vision de la stratégie. C'est pour ça que ça crée des frictions.
En terminant, j'aimerais revenir sur un aspect bien important de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est que on reconnaît, oui, l'État, mais on ne reconnaît pas le Hamas spécifiquement dans la bande de Gaza qui gouverne à cet endroit-là.
En Cisjordanie, l'autre partie de la Palestine, en Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne qui est reconnue internationalement comme l'interlocuteur officiel pour la Palestine qui est dirigé par le Fatah, donc une autre formation politique. En partie, il y a d'autres groupes politiques aussi en Cisjordanie. Donc, il y a déjà une distinction entre le Hamas, dans la réalité présente, entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Et donc, c'est à l'autorité palestinienne auquel le Canada fait référence et d'autres en disant, mais on reconnaît que ça peut être un gouvernement. Même là, il y a certaines conditions, certaines réformes qu'on souhaite que l'autorité palestinienne mette de l'avant, notamment concernant la vie démocratique, qu'il y ait des élections, parce que ça fait bientôt 20 ans qu'il n'y aura pas eu d'élections depuis 2007, ni en Cisjordanie, ni en bande de Gaza, donc pas en Palestine. Donc c'est une des conditions pour lesquelles l'autorité palestinienne a dit « oui, d'accord, nous allons organiser des élections » et qui a conduit le Canada à dire « ben ça répond à une de nos exigences pour qu'on fasse cette reconnaissance-là de l'État de la Palestine ». Et une autre exigence, c'est justement que le Hamas, lui, ne fasse jamais partie de ce gouvernement-là. Et entre ce souhait-là, par contre, et la réalité, c'est possible que le Hamas ne fasse jamais partie de l'autorité palestinienne, mais comment s'assurer que le Hamas ne contrôle aucune partie du gouvernement, pardon, aucune partie du territoire de la Palestine, comme la bande de Gaza, ça c'est plus difficile. Depuis 2007, on n'y est pas arrivé, et c'est ce que Israël tente de faire, mais avec des résultats qui sont pour l'instant contestables, puisque bien que le Hamas soit très affaibli, c'est vrai, par les opérations d'État d'Israël, mais en même temps, celle-ci provoque une certaine sympathie de la part de la population palestinienne envers le Hamas. Et donc, on voit que ce n'est pas la seule solution, l'enjeu, la stratégie militaire. Ça prend une solution diplomatique aussi. Et on retourne là à pourquoi que cette reconnaissance-là va être pour tenter de relancer les cartes pour favoriser une solution éventuellement diplomatique au conflit israélo-palestinien.
Voilà, c'était Mathieu Bélanger sur cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies du côté de New York. On peut rappeler que aujourd'hui, la France a reconnu à son tour l'État de Palestine là, devant l'ONU. Un petit mot de circulation pour vous parler de la métropolitaine ouest. Au niveau du viaduc Marien, on parle d'un camion semi-remorque qui est en panne sur l'accotement de droite. Le ministère des Transports là, est déjà sur place en protection. Alors, prudence dans le secteur. Dans un moment, on parle avec la docteure Lynn Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière. Il sera question du projet de loi 106 qui lierait la rémunération des médecins omnipraticiens à leur performance.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier Proprio Direct.
Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste, et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca. Un site clair, facile à utiliser, avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
La route, la route, la route, l'écran, la route. L'écran, la route, la route, la route, la route, l'écran, le piéton qui traverse, le pare-brise qui craque, le piéton à terre, le piéton à terre, le piéton à terre. Vos yeux ne voient qu'une chose à la fois. Si c'est l'écran, ce n'est pas la route. Garder son attention sur la route, c'est juste la base.
Un message du gouvernement du Québec.
Vous envisagez de réaliser vous-même votre habitation, un bâtiment annexe ou un projet collectif? La Caisse du Nord de Lanaudière vous invite à une rencontre dédiée à l'autoconstruction. Un moment d'échange pour mieux comprendre les enjeux, les étapes et les ressources nécessaires à ce type de démarche. Rencontre virtuelle le mardi 24 septembre de 18h30 à 19h45. Inscription obligatoire dans l'un de nos centres de services.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Alexis, Lavaltrie, Sainte-Julienne, Saint-Gabriel.
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
La Naudière PM, santé.
Il est 16h16, les esprits s'échauffent encore entre le gouvernement du Québec et les médecins. François Legault qui menace de faire adopter sous bâillon le projet de loi 106 qui lierait leur rémunération à des indices de performance. Et François Morin en a discuté avec la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière, la docteure Lynn Couture.
Bien, écoutez, nous, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que ce projet de loi-là a pas de bon sens, est illégal, on veut pas le négocier. Et on pense que ça vient justement entacher les vraies négociations qui devraient avoir lieu, soit celles sur l'accord cadre. Quand on dit qu'il ne négocie pas de bonne foi, parce que nous, ce qu'on veut négocier, c'est un accord cadre. Ça, la différence, là, c'est que un accord cadre, c'est ce qui gouverne, si vous voulez, toute l'entente entre le gouvernement et les médecins. C'est ça qu'on est en train de vouloir, nous, de notre côté, discuter. Et c'est ça que le gouvernement, actuellement, ne semble pas vouloir discuter de façon correcte, là, n'est pas de bonne foi. Et à la place, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer le projet de loi 106. Là. C'est ce qu'il vient, encore une fois, de nous dire. Lui, c'est pas de négocier un accord cadre qui l'intéresse, c'est son projet de loi 106.
Vous avez l'Association des médecins omnipraticiens, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a déposé une requête devant les tribunaux relativement justement à la mauvaise foi alléguée là, du gouvernement. Est-ce qu'il y a eu des développements? Est-ce qu'il y a des dates d'audition?
J'ai pas ces détails-là, mais je pense que la sortie du premier ministre s'inscrit tout à fait dans ce qu'on dit. Encore une fois, nous, on dit, écoutez, il négocie pas de bonne foi, puis là, le premier ministre vient de dire, ben, il faut qu'il négocie sans cesse, il faut qu'il travaille là-dessus. Alors que nous, on dit, c'est pas ça notre obligation de négocier, c'est l'accord cadre. Et que, justement, on dit, sans cesse vient envenimer, vient changer complètement la donne. Sans cesse, c'est pas quelque chose qui devrait même être sur la table pour nous. C'est quelque chose qui vient enlever des droits et que tous les travailleurs au Québec devraient être inquiets de ça, parce que ça vient dire qu'un ministre peut, du jour au lendemain, décréter les conditions de travail et la rémunération des médecins actuellement, mais qui nous dit que ça ne s'étendra pas ailleurs?
En attendant, ben, vos moyens de pression se poursuivent.
Bien, écoutez, nous, les médecins de famille du Québec, ce sont des moyens de pression médico-administratifs qui ne touchent pas directement les patients, parce qu'on est bien conscient que les patients ont besoin de soins et on reste évidemment très, très proche de nos patients. On veut pas impacter. Mais il faut comprendre qu'on n'a pas beaucoup de cartouches, là. On n'a pas beaucoup de façons de manifester notre désapprobation parce que le Collège des médecins, effectivement, là, on a un code de déontologie très strict. Alors, on fait évidemment attention à ça. Mais c'est sûr que il faut qu'on manifeste d'une façon quelconque notre désapprobation et on va voir ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça.
Je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Il y a quand même un certain impact. C'est chez les étudiants là, en médecine.
Actuellement, c'est la Fédération des médecins spécialistes qui a mis en œuvre ces moyens de pression-là, c'est-à-dire d'arrêter l'enseignement. La Fédération des médecins omnipraticiens a dans sa poche ce mandat-là. Et on verra comment est-ce et à quel moment ils vont le sortir.
Est-ce que je me trompe, mais le projet de loi 106 va inciter les médecins à en faire davantage et probablement délaisser une partie de leur mission?
Ce qui va nous obliger à faire, c'est de la médecine fast-food, là, de la McDo-médecine. Là. Et est-ce que c'est vraiment ça? Parce que là, il n'y aura pas plus de temps pour les gens qui font de l'enseignement. Là. Le ministre l'a dit en commission parlementaire, là, il y a du respect, là, mais c'est pas ça que les médecins, c'est pas ça que la population veut. Alors donc, ça va forcer les médecins enseignants à enseigner la McDo-médecine. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Donc, On est très inquiet avec le projet de loi 106 sur l'enseignement de la médecine. Et ça sera pas juste un moyen de pression, là. Ça, c'est l'orientation de ce gouvernement-là. Alors, pour moi, c'est encore plus dangereux ce que ce projet de loi-là risque de faire au futur pour la population. C'est d'autant plus que déjà, on a un système là qui est implanté par Québec, qui s'appelle Navi, qui n'est pas une mauvaise idée au départ, mais qui est basé sur un problème, alors que notre code nous dit qu'on devrait faire plus qu'un problème. Alors, vous voyez un petit peu où ce gouvernement-là s'en va et pourquoi ça nous pose des problèmes à nous.
Je crois que la docteure Couture a trouvé vraiment le terme approprié, la McDo-médecine. C'était la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière, la docteure Lynn Couture.
La Naudière PM. Affaires.
Il est 16h22. Les entreprises exportatrices de la Naudière doivent faire preuve d'imagination là, pour contrer les effets des tarifs douaniers imposés par Trump aux États-Unis. Et Régent Turgeon a rencontré le président fondateur de Dévolution de Lavaltrie. C'est une entreprise qui est reconnue pour la création de logiciels. Il s'appelle Dave Lemieux et il parle de l'attitude à adopter dans le contexte avec Donald Trump.
Vous êtes établi sur le marché mondial, vous avez une très bonne réputation. C'est sûr que vous transigez avec les États-Unis dans un contexte de tarifs douaniers. Comment on vit ça comme entrepreneur?
C'est sûr que le plus gros impact est l'instabilité. On commence à s'habituer à l'instabilité. On a la chance d'avoir 65 % de nos revenus qui viennent d'Europe. Et les Américains, non seulement sont un marché intéressant, parce que souvent, quand on fait affaire avec eux, ces gens-là ne sont pas à l'aise avec le fait qu'on est Canadien et qu'on est, je dirais, un petit peu maltraité. Fait que le peuple américain est très facile à travailler, mais on a aussi la chance de pouvoir profiter du fait que les Européens veulent trouver des nouveaux partenaires d'affaires. Les tarifs douaniers ont un très grand impact dans beaucoup de marchés, et nous, on a la chance de s'en tirer mieux que beaucoup de gens, puisqu'on est dans du logiciel, ce qui n'est pas directement impacté. Mais je plains ceux qui ont les foudres des tarifs.
Que penser de la politique canadienne à l'égard des tarifs douaniers, justement? La relation de force, si on peut parler, entre le Canada et les États-Unis dans ce dossier-là. Est-ce qu'on a un pouvoir quelconque de négociation?
Moi, je crois beaucoup. En anglais, on parle du soft power, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pouvoir directement, mais quand on est capable de s'encourager nous-mêmes, de faire le petit geste, c'est le seul pouvoir. Il faut quand même pas se leurrer. Les États-Unis ont été pendant des années un excellent partenaire, et puis on a comme été pris de court, ce qui veut dire qu'ils sont plus grands, plus forts, et ils abusent malheureusement de leur position dominante, alors qu'avant, c'était des anges gardiens du monde. On n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Par contre, je pense que c'est un très grand réveil, puis peut-être, j'espère que dans 5 ans ou 10 ans, on va avoir diversifié notre économie, diversifié nos contacts, nos relations, puis on va être juste plus solide mondialement, et on verra ce que ça va donner au niveau de leurs relations, eux autres en particulier.
Et chez Dévolution, en court, moyen et long terme, les objectifs sont toujours les mêmes, gagner des parts de marché, trouver de nouveaux clients et essayer de fuir les États-Unis peut-être un peu.
Peut-être pas fuir, parce qu'à chaque fois que j'ai des contacts avec des gens des États-Unis, les gens sont très sympathiques. Souvent, ils s'excusent même. Si vous allez proche de la frontière, les Canadiens sont très bien traités, mais c'est sûr que des fois, c'est un petit peu gênant ou épeurant, que je dirais plus. Ouais. Par contre, oui, la diversification, ça reste un défi, mais il y a tellement des beaux pays en Europe avec des gens accueillants. L'Australie, pour nous aussi, qui est beaucoup plus loin, un marché, les marchés de l'Amérique du Sud, c'est une opportunité de se diversifier. Je pense que on a peut-être été un petit peu paresseux en regardant nos voisins du Sud, puis c'est peut-être le temps de s'ouvrir au monde. C'était dans nos plans, on va continuer là-dessus. D'ailleurs, on regarde pour ouvrir un bureau en Europe. On envoie des gens qui vont ouvrir, amener notre culture là-bas avec la petite touche européenne, mais on y croit beaucoup, puis c'est des belles parts de marché.
Je sens beaucoup d'optimisme dans vos propos.
Je suis toujours optimiste. Il y a toujours des opportunités dans chaque crise. Il faut juste regarder avec les bonnes lunettes, puis il va y avoir des occasions partout.
C'est votre message que vous envoyez aux autres entrepreneurs de la Naudière?
On a survécu à la COVID. Qu'est-ce qui peut être pire que la COVID en termes d'impact économique? Je ne parle même pas au niveau sanitaire et santé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus résilients qu'ils pensent. Et les gens vont se transformer, ça va évoluer. C'est une chose que nous, on essaie de beaucoup rappeler aux employés, c'est que le changement, c'est bien. Parce que le jour où une entreprise n'a plus de changement, elle est en train de décroître. Et c'est pas nécessairement bon signe non plus.
C'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec Dave Hervieux. Il est président fondateur de Dévolution, une entreprise de la Valtrie qui se spécialise dans la création de logiciels.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Tout d'abord, parlons de la 40 Ouest. Au milieu du pont Charles de Gaulle, on signale un véhicule en panne. C'est à gauche, remorqueuse sur place. On est en attente d'un véhicule pour la protection, là. Mais le problème, c'est que ça crée de la curiosité en direction Est. Ce qui fait qu'on a un ralentissement, un bon ralentissement, là, juste avant Charles de Gaulle, donc à partir de Montréal, là, vers Repentigny. Et si on regarde du côté de Montréal, la métropolitaine direction Charles de Gaulle, là, c'est lent à partir du tricentenaire. On reprend de la vitesse un peu passé le pont d'étagement du CN. Repentigny, ça se passe quand même bien. 40 Est, mentionnons aussi que la 341 montée de l'Épiphanie, là, c'est dense depuis la 40 et ce, jusqu'à la rivière L'Assomption. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. 25 Nord, c'est dense depuis la jonction avec la 440 là, jusqu'au boulevard des Mille-Îles. Le pont Sophie-Masson, ça va bien en ce moment. Et finalement, autoroute 640, possible dans les deux directions, entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Présenté par les Habitations Bordelot, le Salon 50+ de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros, Le Pharmacien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette, Marie-Josée Taillefer, présentée par le réseau des Cliniques Lob, et Sébastien Buisson, des Habitations Bordelot. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50+ de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
Écoute en direct, actualités régionales, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Acheter local, c'est plus important que jamais. Pour trouver les commerces de ta région, va sur notreentourage.ca et ajoute-le à tes favoris. C'est rapide, simple, 100% local. Regarde aussi ton répertoire reçu par la Poste.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
C'est le retour à la routine avec les enfants. Pas le temps de cuisiner ou en manque d'inspiration? La Fromagerie Victoria a la solution avec sa boutique maison. Lasagne, panne repas, sauce italienne, fromage en grains, tortillons, il y a de quoi être inspiré pour les lunchs de la famille. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
On retrouve Pierre Jubinville avec l'actualité. Tout d'abord, Pierre, on va parler de politique. On se pose la question si Véronique Venn se présentera pour le Parti québécois aux prochaines élections. Rien n'est moins certain.
On se pose la question parce qu'elle a déposé vendredi sa candidature à la mairie de Sainte-Marie-Salomé, où elle est mairesse depuis 12 ans déjà. Elle ne ferme quand même pas la porte à une nouvelle tentative de ramener Joliette dans le giron du Parti québécois.
Au sein de la municipalité, on n'a pas eu vraiment eu d'élections qui nous ont coûté des élections. Donc, on a été élus par acclamation depuis plusieurs mandats. Donc, non, ça me dérange pas. Puis en plus, on a notre directrice générale qui va être en congé de maternité. Donc, le fait de rester pendant un an, le fait de maintenir un espèce de statu quo pour l'année qui s'en vient, ça serait juste, je pense, naturel pour Sainte-Marie-Salomé qui vient de construire un gros centre communautaire. Donc, les projets sont déjà tout en place. Donc, c'est un accompagnement, je pense, naturel.
Et maintenant, scène municipale, Alexis Nantel se prépare pour les élections du 2 novembre à Saint-Charles-Borromée.
Oui, son parti, collectivité d'Alexis Nantel, n'a jusqu'à maintenant aucune opposition, comme un peu partout au Québec, dans les municipalités. Le parti vient tout de même de lancer une plateforme, la plateforme qui compte 100 propositions issues de consultations auprès de la population. On va écouter Sébastien Nantel.
Il y a des choses sur lesquelles on va, par exemple, on va tabler sur des consultations où on va regarder des choses qui sont possibles d'être faites, mais il y en a où on prend l'engagement vraiment de le faire et de travailler à le faire, comme par exemple, j'en avais déjà parlé, mais une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est l'acquisition des derniers boisés de Saint-Charles-Borromée pour en faire éventuellement des parcs, des grands parcs municipaux.
À la commission Galland sur le scandale Saclic, on se demande qui a menti ou non.
Oui, le ton a encore monté, comme c'est le cas depuis quatre jours. Philippe Bonneville est présent, l'avocat de cet ancien vice-président de la SAC, a affirmé haut et fort qu'il est faux de prétendre que son client a menti sous serment.
Oui, vendredi, Carl Malenfant a semblé s'être parjuré en affirmant ne jamais avoir eu accès à certains documents liés à un appel d'offres, alors que la commission a démontré qu'il s'était lui-même envoyé ces fameux documents à son adresse courriel personnelle. Or, son avocat a dit ce matin que M. Malenfant a trouvé des preuves ce week-end et qu'il est donc à mesure de démontrer qu'il n'a pas du tout menti. Voici Maître Jean-François Bertrand.
Pour que le public ait accès à cette pièce-là, puis que ce mensonge-là qui circule dans les médias, malheureusement, qui affecte la réputation de M. Malenfant, soit corrigé dès maintenant.
Et vous allez l'entendre, tout ça a provoqué une vive réaction du procureur-chef de la commission, Maître Simon Tremblay.
De laisser sous-entendre qu'on cache des choses, je pense que c'est inacceptable de part de mon confrère.
Carl Malenfant va fournir des informations supplémentaires à ce sujet plus tard aujourd'hui.
Et puis maintenant, Pierre, la violence dans les établissements de santé préoccupe les syndicats.
On se souvient qu'une employée du centre jeunesse de Joliette a été grièvement blessée il y a deux semaines. Et la PTS, la CSN et le SFPQ dénoncent les lacunes majeures de sécurité. On écoute Simon Deschênes, il est président du syndicat des travailleurs et travailleuses du CIS Lanaudière.
On a deux récents cas d'agression. On a deux cas de violence grave qu'on a eu dans les dernières semaines, dont une qui a été laissée pour morte dans un centre jeunesse. Heureusement, elle est toujours en vie. Mais les recommandations comme celles qu'on nomme depuis des mois sont pas entendues par l'employeur. Puis là, on entend que les coupures budgétaires sont plus importantes pour eux que la santé du monde.
On aura d'ailleurs l'occasion de vous présenter l'entretien complet avec Simon Deschênes. Régent Turgeon s'est entretenu avec lui. Là, on vous présente ça dans quelques minutes. Et finalement, Pierre, une bonne nouvelle pour l'éducation aux adultes dans Repentigny.
Oui, on va construire sur les terrains de l'école secondaire Jean-Baptiste Maillard un centre de formation pour adultes. Un investissement qui va permettre finalement de libérer 27 classes dans les locaux actuels de l'école. On va écouter le directeur général du centre scolaire Les Affluents, Patrick Capot-Loucourt.
Ben, ça devrait commencer au printemps, je l'espère. On avait déjà avancé au niveau des plans. Vous savez, on a eu un gel de toute construction le 13 décembre dernier. Alors, on avait déjà commencé des travaux. On va avoir des rencontres dès demain pour essayer de voir un peu plus quand on va pouvoir commencer la construction. Mais j'espère, très, très sincèrement, j'espère commencer ça dès le printemps, en fait.
Et rapidement, terminant, Pierre, un petit mot sur l'animateur américain Jimmy Kimmel.
Oui, il a été suspendu la semaine dernière. Il sera de retour demain soir à l'antenne. Bon. On ne sait pas si Disney avait demandé à l'animateur de s'excuser, alors on ne sait pas ce qu'il fera demain.
Merci, Pierre Jubinville. Il est 16h35.
Au 99.1 88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1 88.9.
RPM. Santé.
Préoccupé par la violence dans les établissements de santé, il y a trois syndicats qui dénoncent les lacunes majeures de sécurité, l'inaction des établissements et l'austérité du gouvernement, dont les compressions menacent la vie du personnel et puis des usagers. La PTS, la CSN et la SFPQ rappellent les cas de violence récemment commis contre une employée du Centre jeunesse de Joliette, une jeune employée de 19 ans. Et Régent Turgeon s'est entretenu avec Simon Deschênes, qui est président du syndicat des travailleuses et travailleurs du CIS de la Naudière.
Monsieur Deschênes, un mot à l'ordre du jour aujourd'hui, je dénonce. On dénonce plusieurs choses.
Oui, particulièrement aujourd'hui, ce qu'on dénonce, évidemment, toujours des conséquences des impacts des compressions budgétaires qu'on vit. Aujourd'hui, on dénonce d'un cri du cœur des travailleuses et travailleurs les cas d'agression envers le personnel. Les gens ne se sentent plus en sécurité. Les mesures de prévention sont revendiquées, mais pourtant tardent à s'appliquer. On entend en parallèle que la CNSST va voir couper 250 postes. C'est des inspecteurs qui nous aident justement notre dernier recours pour pouvoir sécuriser le personnel. On a deux récents cas d'agression. On a deux cas de violence grave qu'on a eu dans les dernières semaines, dont une qui a été laissée pour morte dans un centre jeunesse. Heureusement, elle est toujours en vie, mais les recommandations comme celles qu'on nomme depuis des mois ne sont pas entendues par l'employeur. Puis là, on entend que les coupures budgétaires sont plus importantes pour eux que la santé du monde.
C'est quoi vos recommandations? Qu'est-ce que vous dites au gouvernement? Et surtout, aux employeurs là, dans le milieu de la santé, les gens qui sont sur le plancher avec les employés, les syndiqués.
Bien évidemment, ce qu'on revendique, premièrement, c'est de la part du gouvernement de mettre fin à sa démarche de compression budgétaire qui appelle la rigueur budgétaire. Cessons de couper des postes. On demande au CIS de la Naudière de ne pas abolir les postes annoncés à la fin septembre parce qu'on va perdre du monde encore une fois. On demande également de ne pas couper des postes dans la CNESST. Cessez de couper en santé et services sociaux. C'est nous qui s'occupons du monde. Il faut aussi mettre de l'argent pour s'occuper de notre monde qui soigne les gens. Finalement, le projet de loi 101 qui s'attaque directement aux femmes québécoises parce que le secteur de la santé et des services sociaux est retiré de ce projet de loi. Donc, on n'est plus jugé comme groupe prioritaire alors que c'est nous qui s'occupons de la population. On demande au gouvernement de reculer sur son projet de loi 101 qui s'attaque à 85 % de femmes dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Dans l'intervalle, là, on sent qu'il y a un climat de peur là, dans nos institutions de santé.
Assurément, bien qu'on ait appelé plusieurs travailleuses et travailleurs à participer à cette conférence de presse, certains, bien qu'ils étaient totalement d'accord avec la démarche, avaient peur de se présenter sous les médias parce que l'employeur peut sévir parfois par crainte de représailles ou que simplement que le lendemain, ton boss t'attend puis dit « Ouais, c'est dommage que l'omerta règne dans un réseau qui est financé par la population. Donc, pourquoi on devrait se museler quand des situations comme celle-là arrivent? » C'est des vies, c'est des familles qui sont touchées par des agressions comme celles qu'on a entendues récemment dans le réseau de santé Lanaudois.
On a dit que les employés ont peur de s'exprimer. Il y a des démissions un peu partout. On parle d'un manque de direction puis peut-être d'un manque de priorité dans les services ou dans la gestion.
Assurément, mais c'est dur de prioriser quand on décide tout en haut à Québec dans une tour d'ivoire. Il faut remettre entre les mains des personnes qui décident ici, dans la région. Des fois, on se questionne même sur le réel pouvoir de notre direction générale. Et surtout des chefs de service qui, oui, je peux comprendre, à certaines occasions, disent aux travailleurs, écoute, je comprends ce que tu dis, mais j'ai pas le pouvoir ni financier, ni en matière de ressources. Donc, ils préfèrent quasiment éviter d'en parler que de se dire les vraies affaires puis d'aller avoir, oui, l'audace d'aller plus haut puis de passer le message. Ici, il faut s'assurer de faire de la rigueur budgétaire, il faut couper l'eau, faites ce que vous avez à faire, mais il faut couper de l'argent. Moi, je trouve ça complètement inacceptable de rendre impuissants les personnes qui dirigent ici dans le réseau de santé. Fait que moi, on s'adresse plus au gouvernement aujourd'hui parce qu'on le comprend là, que notre direction générale a peu de pouvoir. Bientôt, si on a coupé quelque part, peut-être ce sera des postes de direction générale. Après tout, c'est plus eux qui gèrent, ça a l'air.
Bien, justement, Santé Québec, vos attentes par rapport à Santé Québec, est-ce que c'est la solution miracle?
Bien, en fait, mes attentes face à Santé Québec sont l'inverse du projet de Santé Québec. Je viens de vous le dire, la centralisation, là, on en a vécu trois là, dans les dernières années, là, et jamais ça a fait autrement que démobiliser les troupes, justement mettre le pouvoir tellement haut qu'ici-bas, sur le plancher, là, nous, ici, on n'a aucun pouvoir. La centralisation n'est pas une solution, même si dans une cellule Excel, on peut peut-être réussir à gagner quelques sous. Concrètement, il faut redonner du pouvoir local, donc pour nous, Santé Québec, et si je m'adresse à un futur gouvernement qui veut se présenter là, à l'élection, défaites ça. Remettez du pouvoir entre les conseils d'administration régionaux, les directions régionales. C'est ici qu'on sait comment s'adapter à notre besoin populationnel parce qu'ils sont différents d'une région à l'autre. Ça aussi, il faut avoir conscience de ça. On ne peut pas chromer égal parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Si je pense aux gens dans le Grand Nord, totalement une autre histoire. Puis eux, ils ont besoin d'agences alors que le gouvernement coupe les agences puis fait de l'économie là-dessus.
On dénonce aujourd'hui conférence de presse et tout ça. Prochaine étape, on peut faire quoi de plus?
Bien, je crois que ça passe par la sensibilisation de la population, puis que l'élection qui s'en vient d'ici un an risque d'être une fenêtre où il y a une opportunité, autant pas juste pour les syndicats. On n'est qu'un contre-pouvoir aux décisions qui sont prises. On est souvent peut-être diabolisé, mais pourtant, on est des travailleurs, nous aussi, du réseau de la santé. Donc, je pense que notre job, c'est que tout le monde sache, toute la population soit au courant des impacts de Santé Québec, décentralisation. Après quoi, les gens, bien, ils ont assez d'intelligence pour revendiquer à un futur gouvernement de faire les bons choix politique, puis de revoir le priorité budgétaire.
On ne peut pas dire que le message n'est pas clair. Plaisir. C'est un message clairement adressé à Paul Saint-Pierre Plamondon. C'était Simon Deschênes, président du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de Lanaudière. Dans un instant, on parle du Front commun contre le projet de loi sur le régime forestier avec Pierre Paquette.
Chez Top Cornichon, il y a de l'action.
Youpi!
Dès maintenant sur l'appli de Télé-Québec, des personnages rigolos piquent la curiosité de vos enfants.
Cornichou, j'ai une idée!
Avec eux, ils apprennent...
Il faut faire très attention quand on veut traverser la rue.
Et bouge tout en s'amusant.
On va faire des mouvements en même temps. Suis-moi!
Téléchargez l'appli de Télé-Québec.
Bonne idée!
Où vous trouverez plein d'émissions qui plairont aux tout-petits.
Oh! Regarde-toi aussi!
Bon travail, les amis!
Top Cornichon, dès maintenant à la télé, sur le web et l'appli de Télé-Québec.
Tout le contenu de votre radio dans une seule application. L'application CFNJ sur Android et Apple.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Moussan. Profitez d'un service personnalisé et laissez nos conseillers vous accompagner lors de chaque étape du processus d'acquisition de votre nouveau véhicule. Venez voir pourquoi Nissan a été nommé marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs par J.D. Power. Des offres imbattables vous attendent sur nos véhicules neufs et d'occasion. N'attendez plus, passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Base de Roc à Joliette et repartez au volant de votre nouveau véhicule. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226. À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre!
Salut, ça va?
Ben ça va très bien. En ce début de semaine, on va revenir parce qu'on a eu un été, disons, assez chaud au niveau des Autochtones par rapport au régime forestier. Des chefs des Premières Nations, des syndicats du secteur forestier, des organisations environnementales, également des fédérations des ZEC et des pourvoiries du Québec qui se sont réunis la semaine passée pour faire front commun contre le fameux projet de loi 97 qui porte sur la réforme du régime forestier.
Oui. Là, il faut se rappeler que le projet de loi 97, là, il est dans les limbes, là, parce que vu qu'on va avoir une nouvelle session qui va commencer le 30 septembre, il faudrait que le gouvernement le ramène. Alors, il y a une belle occasion là pour le gouvernement, Legault, de peut-être revoir un peu son approche concernant le régime forestier, parce qu'effectivement, ça fait l'unanimité contre ce projet de loi 97. Ça a même coûté en partie son poste à Maïté Blanchette Vézina, là, qui était la députée de Rimouski qui pilotait ce projet de loi-là. Donc, là, on a une belle occasion avec M. Simard, le nouveau ministre, de revoir ça complètement, peut-être de reprendre les consultations, parce qu'effectivement, là, ça fait même une bonne partie de l'industrie est contre aussi le projet de loi 97, parce que ça ramène la situation avant la commission Coulombe. Si on se rappelle tous là, du fameux film de Richard Desjardins concernant l'erreur boréale.
Oui, oui.
Alors, il y avait une commission d'enquête qui avait suivi ça, et c'est là qu'on avait modifié le régime forestier, justement pour éviter ce genre de coupe à blanc là, qui était permis par le fait que l'industrie avait la main haute sur les choix des zones qui étaient à exploiter ou non. Alors, c'est un petit peu ce que le gouvernement veut faire avec la loi 97. Il y aurait comme trois zones, des zones qui sont exploitables à pleine intensité, des zones qui seraient plus de conservation, puis des zones qui seraient entre les deux. Et c'est contre cette idée-là que, entre autres, les Autochtones en ont, moins peut-être les groupes forestiers, mais donc, encore une fois, il y a personne qui monte aux barricades pour protéger ou défendre ce projet de loi-là. Alors, une belle occasion là avec la reprise des travaux de revoir ça de A à Z.
Il faut rappeler que cet été, il y a eu de nombreuses manifestations, là, particulièrement dans le secteur de Wemotachi, en Haute-Mauricie, où ce sont des Atikameks, là, qui s'opposaient justement à ce projet de loi-là. Et parmi les signataires de cette déclaration de la semaine dernière, on retrouve le chef Sipi Flamand du Conseil des Atikameks de Manawan, et également Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamek. Les Atikameks sont vraiment touché par ça, puis on peut le comprendre. Et lorsqu'on regarde maintenant ce qu'on voyait pas à l'époque de l'erreur boréale, oui, c'est un beau film de Richard Desjardins, mais maintenant concrètement, lorsqu'on regarde des cartes auxquelles on a accès sur Google Maps par exemple, lorsqu'on regarde la vue satellite, on voit carrément ces coupes à blanc là qui c'est effrayant ce qu'on peut voir à travers le Québec, le nombre de coupes à blanc. Et par hypocrisie, on laisse toujours sur le long de la route un rang avec des arbres qui ne sont pas coupés.
Exactement. Ça donne l'illusion qu'on est en pleine forêt. Et dès qu'on dépasse un peu la zone dont tu viens de parler, ben on voit ces coupes à blanc-là. Il y en a moins présentement parce que le régime forestier a été changé. Mais là, si on revient aux anciennes méthodes, et c'est ça qui est contesté. Moi, je dirais pas dans le fond, l'idée des zones, c'est pas une mauvaise idée en soi. Le gros problème, c'est que les zones d'aménagement forestier pour les entreprises, les zones qui seraient exploitées intensivement, ben il y a pas de consultation qui est prévue, pas de consultation publique pour déterminer ces zones-là. C'est là où ça pose un problème. C'est sûr que les droits ancestraux des Autochtones aussi sont menacés par ces zones-là. Et mais en même temps, les syndicats dans l'industrie se plaignent du fait que avec cette nouvelle ce nouveau régime forestier là, les emplois seraient encore plus précaires qu'ils le sont présentement. Puis les groupes environnementaux, eux, en ont contre le fait qu'on s'en prend à la biodiversité. Alors, il n'y a pas grand monde là pour défendre le projet de loi du gouvernement. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une belle occasion là, vu qu'il est aux limbes actuellement, de ne pas le ramener comme tel. Et peut-être le nouveau ministre pourrait enclencher de nouvelles consultations, parce que tout le monde s'entend aussi pour dire que le statu quo n'est pas acceptable, là, parce que on fait face à une concurrence importante du côté américain, du reste du Canada, des bois qui viennent aussi du Brésil. Et donc, si on fait rien, ben on va se retrouver avec une industrie qui va péricliter.
On demande d'ailleurs une rencontre avec le premier ministre François Legault pour revoir tout ça. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Moi, je pense que la balle est plutôt dans le camp de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui devrait préparer quelque chose là pour la prochaine campagne électorale à ce sujet-là.
Ah ben, c'est sûrement, je suis convaincu, mais là, il veut sûrement laisser Legault se dépêtrer dans ses propres turpitudes. Alors, j'imagine que le premier ministre va accepter de les rencontrer, parce qu'actuellement on le voit partout, on l'a vu hier, tout le monde en parle. Mm-hmm. Et puis il va être cette semaine à la Fédération québécoise des municipalités, où justement le projet de loi 97 est un enjeu important pour les MRC. Et puis en fin de semaine, il va y avoir le caucus, il y a le caucus vendredi, mais en fin de semaine, il va y avoir le congrès de la CAQ. Alors c'est tous des lieux où M. Legault va avoir à défendre la vision du gouvernement, particulièrement sur la question du régime forestier. Et donc, là, il y a une belle occasion pour lui, peut-être, de rencontrer les opposants à la loi 97. Encore une fois, je le rappelle, elle est dans les limbes, donc on n'a pas besoin de la ramener. On peut tout simplement reprendre le processus à zéro là avec un nouveau ministre. Alors, on verra s'ils vont prendre, la CAQ va prendre la balle au bon. Mais tu as raison de dire que du côté du PQ, faudrait nous faire savoir quels sont les projets qu'ils ont concernant le régime forestier, parce qu'on sait que la forêt est extrêmement importante pour l'économie québécoise, pour les régions du Québec. Alors, je pense que effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon doit dire quelque chose assez rapidement sur ce sujet-là. Mais en même temps, je pense qu'actuellement, il laisse le gouffre dépétrer avec ses problèmes.
Et justement, c'est que le nouveau ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, se retrouve avec, si on veut, une patate chaude, là.
Oui, une grosse patate chaude. D'abord, je le disais tout à l'heure, Maïté Vézina, Blanchette Vézina a perdu son poste en grande partie à cause de ça. Lui, mais là, on l'a vu, là, en fin de semaine, il disait, bon, je prends connaissance du dossier, je vais faire rapidement, mais en même temps, je peux pas faire l'économie d'étudier le dossier. Donc, on voit qu'il essaie de pelleter un peu par en avant, parce que c'est une grosse patate chaude. Encore une fois, le secteur forestier pour le Québec, c'est un secteur très important au plan économique, mais au plan social aussi. Il y a beaucoup d'emplois en région qui dépendent de ce régime, de ce secteur-là, puis le régime forestier va avoir un impact important sur la façon d'exploiter et surtout de préserver la ressource dans le futur.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler à la reprise des travaux parlementaires. Merci beaucoup, Pierre Paquette.
On se reparle demain, je crois. Hein?
Oui, tout à fait. Salut, Pierre.
OK, à demain. Bye.
Lanaudière PM, éducation.
Un tout nouveau centre de formation pour adultes sera construit du côté de Repentigny. Ça va permettre de libérer 27 classes à l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur. La rentrée scolaire s'est déroulée relativement bien au centre scolaire des Affluents. Régent Turgeon en a parlé avec le directeur général Patrick Capoluco.
Le contexte, en effet, c'est un contexte où la direction générale, pas juste moi, mais bien toute l'équipe de direction générale, les DGA compris, on doit conjuguer rigueur financière, bien important, et ambition éducative. Faut pas oublier ça. On reste focus sur le rôle d'un centre de service, c'est la réussite éducative de nos jeunes et de nos adultes.
Comment se passe là, la rentrée 25-26 jusqu'à présent?
Ben, vous savez, ça se passe avec, rigueur budgétaire. Ensuite, on parle de gel d'embauche. La pénurie d'employés n'est pas disparue, elle est encore là. On doit conjuguer avec ça. Mais somme toute, ça se passe assez bien parce qu'on a eu le temps de se préparer pendant l'été et préparer nos directions qui travaillent d'arrache-pied pour s'assurer de la réussite éducative de nos jeunes.
Est-ce qu'il y a encore des postes à combler, là?
Ben, écoutez, des postes à combler, je peux vous dire, des postes réguliers à temps plein comme enseignant, zéro. Grâce à nos ressources humaines, zéro poste présentement de poste à temps plein à combler. Des temps partiels, il en reste trois seulement, toujours pour les enseignants. Au niveau des professionnels, un seul professionnel nous manque, un psychoéducateur. Et en soutien, c'est là que on en a quand même un petit peu plus. Il nous manque environ l'équivalent de 15 postes à temps plein.
Côté espace, là, vous m'avez lâché une bombe là tantôt. C'est quoi cette fameuse bombe, cette annonce que vous me faites concernant la formation aux adultes?
Ben, d'abord, je tiens à remercier notre gouvernement qui a quand même répondu à nos demandes, qui a répondu à nos explications pour leur dire à quel point on était serré au niveau de la population étudiante. Et grâce à ça, ils ont finalement libéré la construction parce qu'elle était gelée. On l'avait, hein, on avait accepté cette construction d'un centre d'éducation des adultes. Pourquoi? Parce que présentement, le centre d'éducation des adultes occupe une aile de l'école JBM, de l'école secondaire. Donc, en retirant les adultes et en leur construisant un centre pour eux, sur la rue Iberville, sur le complexe, sur le terrain de la JBM, ben, on libère 27 classes environ pour le secondaire, ce qui va nous donner beaucoup d'air pour les années à venir, faire en sorte qu'on aura pu à se poser à chaque année la question où on va mettre nos élèves.
Ça commence quand, cette construction-là, là, M. Capoluppo?
Ben, ça devrait commencer au printemps, je l'espère. On avait déjà avancé au niveau des plans. Vous savez, on a eu un gel de toute construction le 13 décembre dernier. Alors, on avait déjà commencé des travaux. On va avoir des rencontres dès demain pour essayer de voir un peu plus quand on va pouvoir commencer la construction. Mais j'espère, très très sincèrement, j'espère commencer ça dès le printemps, en fait.
Le budget a été approuvé pour ça?
Oui, le budget a été approuvé, tout est en règle. Donc, c'est, à partir du moment où on reçoit une confirmation écrite de notre ministère, ben, habituellement, les choses vont rondement.
Là, il y a une nouvelle ministre de l'Éducation, Mme Lebel, qui a pris le relais de M. Drainville. Mais il y a encore des compressions budgétaires. Là. On est parti de 570 pour réinvestir 540. Là, on a entendu que les centres de services scolaires doivent faire des contorsions budgétaires pour arriver à des fins pratiques. C'est le cas?
Ben oui, c'est sûr qu'on aura des choix difficiles à faire, c'est sûr. Il faut qu'on cherche sans relâche des pistes d'efficacité organisationnelle. On doit être cohérent, on doit communiquer avec nos parents, on doit être transparent dans ce qu'on va faire, on doit avoir une cohésion pour arriver à ces buts-là, pour faire en sorte qu'on ne déroge pas, malgré les coupures, malgré les restrictions budgétaires, à ce qui nous motive à tous les jours, la réussite, donner la meilleure chance possible à tous nos élèves de réussir. Faut pas lâcher cet objectif-là, malgré le bruit ambiant des coupures. Ben oui, il y en a. Ben oui, il y en a déjà eu. Ouais. On a déjà fait face à du vent comme ça. Puis on va réussir à trouver des moyens. On va innover. On va faire autrement.
On disait que les 540 millions seraient donnés, mais moyennant certaines conditions. On les connaît ou il faut attendre jusqu'au 30 octobre comme il a été avancé?
Il faudra attendre pour avoir plus de détails jusqu'au 30 octobre. Mais une chose est sûre, c'est que on doit faire ce que le ministère nous a donné comme mission, c'est de faire attention aux ETC, c'est-à-dire aux équivalents temps plein, au nombre de personnes que l'on engage au centre de service scolaire. Et nous, quand on donne des services dans un centre de service scolaire, quand on donne un service, ben, habituellement, ça implique d'engager des gens. Alors, il faut faire attention. L'État veut réduire le nombre de fonctionnaires. On en fait partie. Alors, ça fait partie d'efforts budgétaires. Hein? C'est ça que ça veut dire. Alors, il faudra faire attention. Il faudra bien décider, bien analyser ce qu'on a besoin comme personnel pour maintenir la réussite de nos élèves.
Dernier point, M. Capolupo. Le Centre de services scolaires des affluents, c'est un immense parc immobilier. Y a-t-il des rénovations qui s'en viennent, d'autres investissements? On est où là-dedans?
Ben, voilà une bonne question, M. Turgeon, justement, parce qu'on va changer un peu notre philosophie. Je vous l'annonce en primeur aujourd'hui. C'est que, oui, en effet, on a un grand parc immobilier, plus de 72 bâtisses à entretenir. On a des sous cette année pour le faire, environ 35-40 millions, là, dépendant. Là, on est encore en train de regarder ce que le ministère va nous octroyer. Et ces sommes-là, maintenant, on pourra plus attendre uniquement l'été pour le faire. Parce que on attendait souvent l'été parce que c'est là que ça dérange le moins. Maintenant, notre parc est vieillissant, les années passent. On devra donc changer notre philosophie pour faire en sorte qu'on puisse faire plus de rénovations durant l'année scolaire. Ça va impliquer plus de dérangements, c'est sûr, mais on devra faire avec si on veut maintenir notre parc immobilier en bonne, sinon en très bon état.
C'était Patrick Capolupo. Il est directeur général du Centre scolaire des affluents. Donc, bonne nouvelle, un tout nouveau centre de formation pour les adultes qui sera construit du côté de Repentigny. Et voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne pour Lanaudière PM. Je salue et remercie les collaborateurs aujourd'hui, Mathieu Bélanger, François Morin, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, ainsi que Pierre Paquette, ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. On sera là, nous, demain à 16h pour une autre édition de Lanaudière PM. Entre-temps, manquez pas Nicolas Bellemare qui s'en vient de l'autre côté des actualités de 17h avec le 5 à 7 Trad. Salut, bye!